Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Pour cette première et dernière émission de juillet 2010, nous céderons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirite de la province de Liège, avec qui nous continuerons la lecture du livre de la Genèse. En seconde partie de notre programme, nous donnerons la parole à notre frère Fabio Furtado pour un entretien avec notre frère Michael Ponsardin, conférencier, biographe, lors de la présentation de son excellent livre « Chico Xavier, l'homme et le médium » et ceci lors du dernier symposium de Wigimont, les 29 et 30 mai derniers. Pour émettre des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et autres pays limitrophes ou consulter tout simplement notre site internet. À tous et toutes, nous vous souhaitons une bonne écoute et surtout de très bonnes vacances ensoleillées. À bientôt. Aujourd'hui, notre sœur Gisèle nous invite à poursuivre la lecture de la Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 15 traitant des miracles de l'Évangile, possédé, suite point 34, 36 et résurrection, point 37 à 39.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 15, les miracles de l'Évangile, possédé, suite. Point 34. Le fait de mauvais esprits envoyés dans le corps de pourceaux est contraire à toute probabilité. On s'expliquerait d'ailleurs difficilement la présence d'un aussi nombreux troupeau de porcs dans un pays où cet animal était en horreur et sans utilité pour la nourriture. Un esprit mauvais n'en est pas moins un esprit humain, encore assez imparfait pour faire le mal après la mort, comme il le faisait auparavant, et il est contre les lois de la nature qu'il puisse animer le corps d'un animal. Il faut donc y voir une de ces amplifications communes dans les temps d'ignorance et de superstition, ou peut-être une allégorie pour caractériser les penchants immondes de certains esprits. Point 35. Les obsédés et les possédés paraissaient avoir été très nombreux en Judée au temps de Jésus, ce qui lui donnait l'occasion d'en guérir beaucoup. Les mauvais esprits avaient sans doute fait invasion dans ce pays et causé une épidémie de possession. Entre parenthèses, chapitre 14, numéro 49. Fermez la parenthèse. Sans être à l'état épidémique, les obsessions individuelles sont extrêmement fréquentes et se présentent sous des aspects très variés, qu'une connaissance approfondie du spiritisme fait aisément reconnaître. Elles peuvent souvent avoir des conséquences fâcheuses pour la santé, soit en aggravant des affections organiques, soit en les déterminant. Elles seront incontestablement un jour rangées parmi les causes pathologiques requérant, par leur nature spéciale, des moyens curatifs spéciaux. Le spiritisme, en faisant connaître la cause du mal, ouvre une nouvelle voie à l'art de guérir et fournit à la science le moyen de réussir là où elle n'échoue souvent que faute de s'attaquer à la cause première du mal. Entre parenthèses, livre des médiums, chapitre 23. Fermez la parenthèse. Point 36. Jésus était accusé par les pharisiens de chasser les démons par les démons. Le bien qu'il faisait était, selon eux, l'œuvre de Satan, sans réfléchir que Satan, se chassant lui-même, ferait un acte d'insensé. Il est remarquable que les pharisiens de ce temps-là prétendaient déjà que toute faculté transcendante et pour ce motif réputée surnaturelle était l'œuvre du démon, puisque selon eux, Jésus-même tenait de lui sa puissance. C'est un point de plus de similitude avec l'époque actuelle, et cette doctrine est encore celle que l'Église cherche à faire prévaloir aujourd'hui contre les manifestations spirites. Remarque. Tous les théologiens sont loin de professer des opinions aussi absolues sur la doctrine démoniaque. Voici celle d'un ecclésiastique dont le clergé ne saurait contester la valeur. On trouve le passage suivant dans les conférences sur la religion par Mgr Freycinus, évêque d'Hermopolis, tome 2, page 341, Paris 1825. Si Jésus avait opéré ses miracles par la vertu du démon, le démon aurait donc travaillé à détruire son empire et il aurait employé sa puissance contre lui-même. Certes, un démon qui chercherait à détruire le règne du vice pour établir celui de la vertu serait un étrange démon. Voilà pourquoi Jésus, pour repousser l'absurde accusation des Juifs, leur disait « Si j'opère des prodiges au nom du démon, le démon est donc divisé avec lui-même. Il cherche donc à se détruire. » Réponse qui ne souffre pas de réplique. C'est précisément l'argument qu'opposent les spirites à ceux qui attribuent aux démons les bons conseils qu'ils reçoivent des esprits. Le démon agirait comme un voleur de profession qui rendrait tout ce qu'il a volé et engagerait les autres voleurs à devenir d'honnêtes gens. Fin de la remarque. Résurrection. Fille de Jaïr. Point 37. Jésus étant encore repassé dans la barque à l'autre bord, lorsqu'il était auprès de la mer, une grande multitude de peuples s'assembla autour de lui. Et un chef de synagogue, nommé Jaïr, vint le trouver. Et le trouvant, il se jeta à ses pieds, et le suppliait, avec grande insistance, en lui disant, « J'ai une fille qui est à l'extrémité, venez lui imposer les mains pour la guérir et lui sauver la vie. » Jésus s'en alla avec lui. Il était suivi d'une grande foule de peuples qui le pressaient. Lorsqu'il, entre parenthèses, Jaïr, parlait encore, il vint des gens du chef de la synagogue qui lui dirent « Votre fille est morte, pourquoi voulez-vous donner au maître la peine d'aller plus loin ?» Mais Jésus, ayant entendu cette parole, dit au chef de la synagogue « Ne craignez point, croyez seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Étant arrivé dans la maison de ce chef de la synagogue, il y vit une troupe confuse de personnes qui pleuraient et qui jetaient de grands cris. Et en entrant, il leur dit, « Pourquoi faites-vous tant de bruit et pourquoi pleurez-vous? Cette fille n'est pas morte, elle n'est qu'endormie. » Et il se moquait de lui. Ayant fait sortir tout le monde, il prit le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient venus avec lui, et il entra au lieu où la fille était couchée. Il la prit par la main et lui dit, « Talita Kumi, c'est-à-dire, ma fille, levez-vous, je vous le commande. » Au même instant, la fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent merveilleusement étonnés. Entre parenthèses, Saint Marc, chapitre 5, versets de 21 à 43. Fermez la parenthèse. Fils de la veuve de Naïm. Point 38. Le jour suivant, Jésus allait en une ville appelée Naïm, et ses disciples l'accompagnaient avec une grande foule de peuple. Lorsqu'il était près de la porte de la ville, il arriva qu'on portait en terre un mort, qui était fils unique de sa mère, et cette femme était veuve, et il y avait une grande quantité de personnes de la ville avec elle. Le Seigneur l'ayant vue, fut touché de compassion envers elle et lui dit, « Ne pleurez point. » Puis s'approchant, il toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Alors il dit, « Jeune homme, levez-vous, je vous le commande. » En même temps, le mort se leva sur son séant et commença à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous ceux qui étaient présents furent saisis de frayeur, et ils glorifiaient Dieu en disant, « Un grand prophète apparut au milieu de nous, et Dieu a visité son peuple. » Le bruit de ce miracle qu'il avait fait se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Entre parenthèses, Saint-Luc, chapitre 7, versets de 11 à 17. Fermez la parenthèse. Point 39. Le fait du retour de la vie corporelle d'un individu réellement mort serait contraire aux lois de la nature et par conséquent plus miraculeux. Or, il n'est pas nécessaire de recourir à cet ordre de fait pour expliquer les résurrections opérées par le Christ. Si parmi nous les apparences trompent parfois les gens de l'art, les accidents de cette nature devaient être bien autrement fréquents dans un pays où l'on ne prenait aucune précaution et où l'ensevelissement était immédiat. Remarque. Une preuve de cette coutume se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 5 et suivant. Ananie, ayant entendu ces paroles, tomba et rendit l'esprit. Et tous ceux qui en entendirent parler furent saisis d'une grande crainte. Aussitôt, quelques jeunes gens vinrent prendre son corps et l'ayant emporté, ils l'enterrèrent. Environ 3 heures après, sa femme, entre parenthèses Saphir, qui ne savait pas ce qui était arrivé, entra. Et Pierre lui dit, « 3 petits points, etc. points. » Au même moment, elle tomba à ses pieds et rendit l'esprit. Ces jeunes hommes, étant entrés, la trouvèrent morte, et l'emportant, ils l'enterrèrent auprès de son mari. Fait de la remarque. Il y a donc toute probabilité que, dans les 2 exemples ci-dessus, il n'y avait que 5 hommes pour léthargie. Jésus lui-même le dit positivement de la fille de Jaïr. « Cette fille, dit-il, n'est pas morte, elle n'est qu'endormie. » D'après la puissance fluidique que possédait Jésus, il n'y a rien d'étonnant que ce fluide vivifiant, dirigé par une forte volonté, ait ranimé les sens engourdis, qu'il ait même pu rappeler dans le corps l'esprit prêt à le quitter, tant que le lien périsprital n'était pas définitivement rompu. Pour les hommes de ce temps, qui croyaient l'individu mort dès qu'il ne respirait plus, il y avait résurrection, et ils ont pu l'affirmer de très bonne foi, mais il y avait en réalité guérison et non résurrection dans l'acception du mot.
Mes amis, poursuivons ensemble notre lecture du jour par la suite du 15e chapitre de la Genèse traitant des miracles de l'Évangile. Résurrection, suite, point 40 à 47.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 15, les miracles de l'Évangile. Résurrection, suite, point 40. La résurrection de Lazare, quoi qu'on en dise, n'infirme nullement ce principe. Il était, dit-on, depuis 4 jours dans le sépulcre. Mais on sait qu'il y a des léthargies qui durent 8 jours et plus. On ajoute qu'il sentait mauvais, ce qui est un signe de décomposition. Cette allégation ne prouve rien non plus, attendu que chez certains individus, il y a décomposition partielle du corps, même avant la mort, et qu'ils exhalent une odeur de pourriture. La mort n'arrive que lorsque les organes essentiels à la vie sont attaqués. Et qui pouvait savoir s'il sentait mauvais? C'est sa sœur Marthe qui le dit. Mais comment le savait-elle? Lazare étant enterré depuis 4 jours, elle le supposait, mais ne pouvait en avoir la certitude. Entre parenthèses, chapitre 14, numéro 29. Fermez la parenthèse. Remarque. Le fait suivant prouve que la décomposition précède quelquefois la mort. Dans le couvent du Bon Pasteur, fondé à Toulon par l'abbé Marin, aumônier des bagnes, pour les filles repentantes, se trouvait une jeune femme qui avait enduré les plus terribles souffrances avec le calme et l'impassibilité d'une victime expiatoire. Au milieu des douleurs, elle semblait sourire à une céleste vision. Comme sainte Thérèse, elle demandait à souffrir encore. Sa chair s'en allait en lambeaux, la gangrène gagnait ses membres. Par une sage prévoyance, les médecins avaient recommandé de faire l'inhumation du corps immédiatement après le décès. Chose étrange, à peine eut-elle rendu le dernier soupir que tout travail de décomposition s'arrêta. Les exhalaisons cadavéreuses cessèrent. Pendant 36 heures, elle resta exposée aux prières et à la vénération de la communauté. Fait de la remarque. Jésus marche sur l'eau. Point 41. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples de monter dans la barque et de passer à l'autre bord avant lui, pendant qu'il renverrait le peuple. Après l'avoir renvoyé, il monta seul sur une montagne pour prier et le soir étant venu, il se trouva seul en ce lieu-là. Cependant, la barque était fort battue des flots au milieu de la mer parce que le vent était contraire. Mais à la 4e veille de la nuit, Jésus vint à eux marchant sur la mer. Remarque. Le lac de Génézareth ou de Tibériade. Fait de la remarque. Lorsqu'ils le virent marcher ainsi sur la mer, ils furent troublés et ils disaient « C'est un fantôme !» et ils s'écrièrent de frayeur. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, ne craignez point !» Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est vous, commandez que j'aille à vous en marchant sur les eaux. » Jésus lui dit, « Venez !» Et Pierre, descendant de la barque, marchait sur l'eau pour aller à Jésus. Mais voyant un grand vent, il eut peur. Et commençant à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauvez-moi !» Aussitôt Jésus, lui tendant la main, le prit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Et étant monté dans la barque, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans cette barque, s'approchant de lui, l'adorèrent en lui disant, « Vous êtes vraiment fils de Dieu !» Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 14, versets de 22 à 23. Fermez la parenthèse. Point 42. Ce phénomène trouve son explication naturelle dans les principes exposés ci-dessus. Chapitre 14, numéro 43. Des exemples analogues prouvent qu'il n'est ni impossible ni miraculeux, puisqu'il est dans les lois de la nature. Il peut s'être produit de deux manières. Jésus, quoique vivant, a pu apparaître sur l'eau sous une forme tangible, tandis que son corps charnel était ailleurs. C'est l'hypothèse la plus probable. On peut même reconnaître dans le récit certains signes caractéristiques des apparitions tangibles. Entre parenthèses, chapitre 14, numéros 35 à 37. Fermez la parenthèse. D'un autre côté, son corps aurait pu être soutenu et sa pesanteur être neutralisée par la même force fluidique qui maintient une table dans l'espace sans point d'appui. Le même effet s'est plusieurs fois produit sur des corps humains. Transfiguration, point 43. Six jours après, Jésus ayant pris Pierre, Jacques et Jean, les mena seuls avec lui sur une haute montagne à l'écart. Remarque, le mont Tabor, au sud-ouest du lac de Tabarish, à 11 km sud-est de Nazareth, environ 1000 mètres de haut. Fait de la remarque. Et il fut transfiguré devant eux. Et pendant qu'il faisait sa prière, son visage parut tout autre. Ses vêtements devinrent tout brillants de lumière et blancs comme la neige, en sorte qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui puisse en faire d'aussi blanc. Et ils verrent paraître Élie et Moïse qui s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, « Maître, nous sommes bien ici. Faisons-y trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait ce qu'il disait, tant il était effrayé. En même temps, il parut une nuée qui les couvrit. Et il sortit de cette nuée une voix qui fit entendre ces mots, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, regardant de tous côtés, ils ne virent plus personne que Jésus qui était demeuré avec eux. Lorsqu'ils descendaient de la montagne, il leur commanda de ne parler à personne de ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité d'entre les morts. Et ils tairent les choses secrètes, s'entre-demandant ce qu'ils voulaient dire par ces mots, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité d'entre les morts. Entre parenthèses, Saint Marc, chapitre 9, versets de 1 à 9. Fermez la parenthèse. Point 44. C'est encore dans les propriétés du fluide périsprital qu'on peut trouver la raison de ce phénomène. La transfiguration, expliquée chapitre 14, numéro 39, est un fait assez ordinaire qui, par suite du rayonnement fluidique, peut modifier l'apparence d'un individu. Mais la pureté du périsprit de Jésus a pu permettre à son esprit de lui donner un éclat exceptionnel. Quant à l'apparition de Moïse et d'Élie, elle rentre entièrement dans le cas de tous les phénomènes du même genre. Entre parenthèses, chapitre 14, numéro 35 et suivant. Fermez la parenthèse. De toutes les facultés qui se sont révélées en Jésus, il n'en est aucune qui soit en dehors des conditions de l'humanité et qu'on ne rencontre chez le commun des hommes parce qu'elles sont dans la nature. Mais par la supériorité de son essence morale et de ses qualités fluidiques, elles atteignaient chez lui des proportions au-dessus de celles du vulgaire. Il nous représentait, à part son enveloppe charnelle, l'état des purs esprits. Tempête apaisée. Point 45. Un jour, étant monté sur une barque avec ses disciples, il leur dit, passons à l'autre bord du lac. Ils partirent donc, et comme ils passaient, ils s'endormirent. Alors, un grand tourbillon de vent vint tout à coup fondre sur le lac, en sorte que leur barque s'emplissant d'eau, ils étaient en péril. Ils s'approchèrent donc de lui et l'éveillèrent en lui disant « Maître, nous périssons !» Jésus, s'étant levé, parla avec menace au vent et aux flots agités, et ils s'apaisèrent et il se fit un grand calme. Alors il leur dit « Où donc est votre foi ?» Mais eux, remplis de crainte et d'admiration, se disaient l'un à l'autre « Quel est donc celui-ci qui commande de la sorte au vent et au flot et à qui ils obéissent ?» Entre parenthèses, Saint Luc, chapitre 8, versets de 22 à 25. Fermez la parenthèse. Point 46. Nous ne connaissons pas encore assez les secrets de la nature pour affirmer s'il y a, oui ou non, des intelligences occultes qui président à l'action des éléments. Dans l'hypothèse de l'affirmatif, le phénomène en question pourrait être le résultat d'un acte d'autorité sur ces mêmes intelligences et prouverait une puissance qu'il n'est donné à aucun homme d'exercer. Dans tous les cas, Jésus, dormant tranquillement pendant la tempête, atteste une sécurité qui peut s'expliquer par ce fait que son esprit voyait qu'il n'y avait aucun danger et que l'orage allait s'apaiser. Noce de Cana, point 47. Ce miracle mentionné dans le seul évangile de Saint Jean est indiqué comme étant le premier que Jésus ait fait, et à ce titre, il aurait dû être d'autant plus remarqué. Il faut qu'il ait produit bien peu de sensations, puisque aucun autre évangéliste n'en parle. Un fait aussi extraordinaire aurait dû étonner au plus haut point les convives, et surtout le maître de la maison, qui ne paraissent pas même s'en être aperçus. Considéré en lui-même, ce fait a peu d'importance comparativement à ceux qui témoignent véritablement des qualités spirituelles de Jésus. En admettant que les choses se soient passées comme elles sont rapportées, il est remarquable que c'est le seul phénomène de ce genre qui les produit. Il était d'une nature trop élevée pour s'attacher à des effets purement matériels, propres, seulement à piquer la curiosité de la foule qui l'eût assimilé à un magicien. Il savait que les choses utiles lui conquerraient plus de sympathie et lui amèneraient plus d'adeptes que celles qui pouvaient passer pour des tours d'adresse et ne toucheraient point le cœur. Entre parenthèses numéro 27. Bien qu'à la rigueur le fait puisse s'expliquer jusqu'à un certain point par une action fluidique qui, ainsi que le magnétisme en offre des exemples, aurait changé les propriétés de l'eau en lui donnant le goût du vin. Cette hypothèse est peu probable, attendu qu'en pareil cas, l'eau n'ayant que le goût du vin aurait conservé sa couleur, ce qui n'eût pas manqué d'être remarqué. Il est plus rationnel d'y voir une de ces paraboles si fréquentes dans les enseignements de Jésus, comme celle de l'enfant prodigue, du festin de noces, du mauvais riche, du figuier desséché, et tant d'autres qui ont cependant le caractère des faits accomplis. Il aura fait, pendant le repas, une allusion au vin et à l'eau, d'où il aura tiré une instruction. Ce qui justifie cette opinion, ce sont les paroles que lui adresse à ce sujet le maître d'hôtel. « Tout homme sert d'abord le bon vin, et après qu'on en a beaucoup bu, il en sert alors de moindre. Mais pour vous, vous avez réservé le bon vin jusqu'à 7 heures. » Entre deux hypothèses, il faut choisir la plus rationnelle, et les spirites ne sont pas gens assez crédules pour ne voir partout que des faits de manifestation, ni assez absolus pour prétendre tout expliqué par les fluides.
Pour terminer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle nous invite à suivre la suite du chapitre 15 traitant des miracles de l'Évangile, multiplication des pains, suite point 48 à 51, tentation de Jésus, point 52.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 15, les miracles de l'Évangile. Multiplication des pains. Point 48. La multiplication des pains est un des miracles qui ont le plus intrigué les commentateurs, en même temps qu'il a défrayé la verve des incrédules. Sans se donner la peine d'en sonder le sens allégorique, ces derniers n'y ont vu qu'un conte puéril. Mais la plupart des gens sérieux ont vu dans ce récit, quoique sous une forme différente de la forme ordinaire, une parabole comparant la nourriture spirituelle de l'âme à la nourriture du corps. On peut y voir cependant plus qu'une figure et admettre, à certains points de vue, la réalité d'un fait matériel, sans pour cela recourir au prodige. On sait qu'une grande préoccupation d'esprit, l'attention soutenue donnée à une chose, font oublier la faim. Or, ceux qui suivaient Jésus étaient déjà avides de l'entendre. Il n'y a donc rien d'étonnant que, fascinés par sa parole et peut-être aussi par la puissante action magnétique qu'il exerçait sur eux, ils n'aient pas éprouvé le besoin matériel de manger. Jésus, qui prévoyait ce résultat, a donc pu tranquilliser ses disciples en disant, dans le langage figuré qui lui était habituel, en admettant qu'on ait réellement apporté quelques pains, que ces pains suffiraient pour rassasier la foule. En même temps, il donnait à ceux-ci une leçon. « Donnez-leur vous-même à manger, » disait-il. Il leur enseignait par là qu'eux aussi pouvaient nourrir par la parole. Ainsi, à côté du sens allégorique moral, il a pu se produire un effet physiologique naturel très connu. Le prodige, dans ce cas, est dans l'ascendant de la parole de Jésus, assez puissante pour captiver l'attention d'une foule immense au point de lui faire oublier de manger. Cette puissance morale témoigne de la supériorité de Jésus, bien plus que le fait purement matériel de la multiplication des pains, qui doit être considéré comme une allégorie. Cette explication se trouve d'ailleurs confirmée par Jésus lui-même dans les deux passages suivants. Le levain des pharisiens, point 49. Or, ses disciples, étant passés au-delà de l'eau, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Ayez soin de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. » Mais ils pensaient et disaient entre eux, « C'est parce que nous n'avons point pris de pain. » Ce que Jésus connaissant, il leur dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi vous entretenez-vous ensemble de ce que vous n'avez point pris de pain? Ne comprenez-vous point encore et ne vous souvient-il point que 5 pains ont suffi pour 5 000 hommes et combien vous en avez emporté de paniers? Comment ne comprenez-vous point que ce n'est pas du pain que je vous parlais lorsque je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors ils comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se garder du levain qu'on met dans le pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 16, versets de 5 à 12. Fermez la parenthèse. Le pain du ciel, point 50. Le lendemain, le peuple, qui était demeuré de l'autre côté de la mer, remarqua qu'il n'y avait point eu là d'autres barques, et que Jésus n'y était point entré avec ses disciples, mais que les disciples seuls s'en étaient allés. Et comme il était depuis arrivé d'autres barques de Tibériade, près du lieu où le Seigneur, après avoir rendu grâce, les avait nourris de 5 pains, et qu'ils connurent enfin que Jésus n'était point là, non plus que ses disciples, ils entrèrent dans ces barques et vinrent à Capharnaüm chercher Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Maître, quand êtes-vous venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité je vous le dis, vous me cherchez non à cause des miracles que vous avez vus, mais parce que je vous ai donné du pain à manger et que vous avez été rassasiés. Travaillez pour avoir, non la nourriture qui périt, mais celle qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, parce que c'est en lui que Dieu le Père a imprimé son sceau et son caractère. » Ils lui dirent, « Que ferons-nous pour faire des œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent, « Quel miracle donc faites-vous, afin qu'en le voyant nous vous croyons? Que faites-vous d'extraordinaire ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger le pain du ciel. » Jésus leur répondit, « en vérité je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le véritable pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel, car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc, « Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain. » Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura point faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais voici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Entre parenthèses, Saint Jean, chapitre 6, versets de 22 à 36 et de 47 à 50. Fermez la parenthèse. Point 51. Dans le premier passage, Jésus, en rappelant les faits produits précédemment, donne clairement à entendre qu'il ne s'était point agi de pain matériel. Autrement, la comparaison qu'il établit avec le levain des pharisiens eût été sans objet. « Ne comprenez-vous point encore, dit-il, et ne vous souvient-il point que 5 pains ont suffi pour 5 000 hommes, et que 7 pains ont suffi pour 4 000 hommes ? Comment ne comprenez-vous point que ce n'est pas du pain que je vous parlais, lorsque je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens ?» Ce rapprochement n'avait aucune raison d'être dans l'hypothèse d'une multiplication matérielle. Le fait eût été assez extraordinaire en lui-même pour avoir frappé l'imagination de ses disciples, qui cependant ne paraissaient pas s'en souvenir. C'est ce qui ressort non moins clairement du discours de Jésus sur le pain du ciel, dans lequel il s'attache à faire comprendre le sens véritable de la nourriture spirituelle. « Travaillez, dit-il, non pour avoir la nourriture qui périt, mais celle qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Cette nourriture est sa parole, qui est le pain descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis, dit-il, le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura point faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais ces distinctions étaient trop subtiles pour ces natures abruptes qui ne comprenaient que les choses tangibles. La manne qui avait nourri le corps de leurs ancêtres était pour eux le véritable pain du ciel. Là était le miracle. Si donc le fait de la multiplication des pains avait eu lieu matériellement, comment ces mêmes hommes, au profit desquels il se serait produit peu de jours auparavant, en auraient-ils été assez peu frappés pour dire à Jésus « Quel miracle donc faites-vous, afin qu'en le voyant nous vous croyions ? Que faites-vous d'extraordinaire ?» C'est qu'ils entendaient par miracle les prodiges que demandaient les pharisiens, c'est-à-dire des signes dans le ciel opérés au commandement, comme par la baguette d'un enchanteur. Ce que faisait Jésus était trop simple et ne s'écartait pas assez des lois de la nature. Les guérisons même n'avaient pas un caractère assez étrange, assez extraordinaire. Les miracles spirituels n'avaient pas assez de corps pour eux. Tentation de Jésus, point 52. Jésus, transporté par le diable sur le sommet du temple, puis sur une montagne, et tenté par lui, est une de ces paraboles qui lui étaient familières et que la crédulité publique a transformée en fait matériel. Remarque. L'explication suivante est tirée textuellement d'une instruction donnée à ce sujet par un esprit. Fin de la remarque.
Et nous arrivons maintenant au moment de notre entretien avec notre ami Michael Ponsardin, l'auteur du livre Chico Xavier, L'homme et le médium. Donc, je voudrais savoir, Michael, comment est-ce que tu as trouvé la philosophie spirite? Comment est-ce que tu as commencé à étudier et pourquoi? Tu avais quel âge?
La première fois que j'ai entendu parler du spiritisme, j'avais à peu près 7 ans. C'est, à l'époque, je vivais à Djibouti, c'est une ancienne colonie française en Afrique, avec mes parents. Et je me souviens qu'il y avait une dame, il y avait une ambiance un peu d'ancienne colonie dans ce pays-là. Et il y avait une dame qui avait parlé de spiritisme un jour à la maison. Et le soir même, avec mon frère, qui avait 7 ans de plus que moi, et ma sœur qui avait 5 ans de plus que moi, on a essayé le jeu du verre, on a essayé de faire une séance de spiritisme tous les trois. Et puis le résultat était, on va dire, positif, puisque le verre s'est mis à bouger et a répondu à des questions qu'on se posait sur, par exemple, un grand-parent qu'on n'avait pas connu ou différentes questions. Je me souviens très bien qu'à l'époque, malgré le fait d'avoir 7 ans, ça me semblait tout ça me semblait vraiment très naturel. Je me souviens que mon frère et ma sœur étaient un peu plus réticents après coup sur qu'est-ce qu'est la signification de tout ça. Alors pour moi, il me semblait un acquis, bah oui, c'est des esprits, c'est normal, ils viennent se communiquer à nous et c'est quelque chose qui m'avait semblé assez normal. Je sais qu'en grandissant, je parlais souvent de spiritisme. J'avais revu des amis que j'avais connus quand j'avais une dizaine d'années, au début du collège, et me disaient que déjà à l'époque, je parlais souvent de ça. La première fois que j'ai lu Kardec, c'était en internat. J'étais au lycée en internat en seconde, j'avais 15 ans. Et toute la nuit, dans toutes les chambres de l'internat, tous les jeunes faisaient des séances de spiritisme partout. Et c'était vraiment quelque chose à l'époque qui m'a vraiment encore plus intrigué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière vraiment? Et un de ces jeunes élèves avait apporté justement le livre des médiums. Donc j'ai dû le dévorer en une semaine. Et dans la foulée, je suis allé à une librairie et j'ai acheté tous les livres que j'ai pu trouver sur Kardec. Je les ai tous dévorés en moins d'un mois. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui me semblait une redécouverte à l'époque. Et puis seulement à partir de l'âge de 18 ans, j'ai commencé à fréquenter un centre spirit en France et puis à commencer à m'investir un peu plus davantage dans le mouvement spirit.
Tu pourrais me raconter quelle était ta motivation pour écrire les bouquins?
Donc je suis arrivé au Brésil pour la première fois en février 2005 et j'ai découvert le mouvement spirit brésilien à ce moment-là. Et ce qui m'avait marqué, c'était de voir déjà la différence de dimension entre le mouvement spirit en France et au Brésil, et aussi la différence d'entendement au sein du mouvement spirit brésilien. Et la deuxième chose qui m'avait marqué, c'était l'omniprésence du personnage Chico Xavier. Au bout d'un certain temps, en côtoyant les personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait que les deux choses étaient connectées. Que le développement du spiritisme au Brésil était vraiment lié à la personne de Chico Xavier et qu'on pouvait dire qu'il y avait un avant Chico Xavier et un après. Donc ça, je suis revenu en France très intrigué par ce personnage et j'ai commencé à, d'une part, essayer de trouver tout ce qui existait dans la langue française sur lui. Donc le tour a été vite fait puisqu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Ensuite, j'avais appris l'espéranto pour pouvoir lire quelques-uns de ses livres qui avaient été édité en espéranto, mais finalement il n'y en avait que moins d'une dizaine, et j'ai été contraint en fait d'apprendre le portugais pour pouvoir en savoir plus. Pendant plus d'un an, j'ai vraiment appris le portugais de manière intensive, et ensuite j'ai commandé une centaine de tous les livres que j'ai pu trouver sur Chico Xavier, il y en avait une centaine, et j'ai commencé à lire tous ces livres, pour mieux connaître ce personnage. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que tous les livres parlaient de Chico Xavier à un moment donné de sa vie. C'était des auteurs qui parlaient au moment où il l'avait connu, et c'était toujours sur une période courte finalement de sa vie. Il n'y avait pas d'ouvrage qui faisait une biographie intégrale de Chico Xavier. La seule existante était celle d'un journaliste, Marcel Sotomayor, mais il était lui-même pas spirite et parfois il mettait son point de vue dans l'histoire ou il interprétait certains événements qui, à mon sens, n'étaient pas de façon très satisfaisante. Et l'idée que j'avais, c'était qu'on commençait à voir les ouvrages de Chico Xavier, mais il me semblait que c'était indissociable les ouvrages qu'il avait donnés et l'homme qu'il avait été. Il n'aurait jamais été le médium qu'il avait été s'il n'avait pas été l'homme qu'il avait été. Et il fallait apporter au public français une biographie sur sa vie pour comprendre comment les ouvrages étaient arrivés. Donc le constat que j'avais fait à l'époque, c'était ben, il n'y a pas de livre finalement écrit en brésilien qui correspondrait à la mentalité européenne et qui pourrait être traduit en français directement. Oui, il n'y avait pas d'ouvrage qui était bien pour traduire. Donc je m'étais dit dans un premier temps, étant donné que je n'avais pas trouvé d'ouvrage qui était possible de traduire, je n'avais pas dans l'idée première d'écrire un livre, parce que j'en avais déjà écrit un petit sur l'histoire de Lyon et le spiritisme à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Allan Kardec. Et j'avais vu à cette époque-là qu'écrire un livre, c'est beaucoup de travail. Et je ne me sentais pas l'énergie de synthétiser toute la masse de travail que j'avais pu ramener du Brésil. Et au fur et à mesure, ce qui s'est passé ensuite, c'est que toutes les nuits en dormant, j'arrêtais pas de revoir des épisodes de sa vie, et je commençais presque à voir des chapitres, comment fallait articuler sa vie, comment le livre idéal devrait être fait. Et c'est arrivé à un tel point que c'était pratiquement une obsession. C'est-à-dire que toutes les nuits, je revoyais ces chapitres s'articuler, les idées s'articuler, et ça m'empêchait vraiment de dormir sereinement. Jusqu'au jour où j'ai commencé à dire, bon, mais tout ce que je vais rêver, maintenant, je vais l'écrire. Et au moment où je l'écrivais, ça sortait complètement de mes rêves, de mes soucis quotidiens, et j'en étais débarrassé. Donc, c'est comme ça que le livre a commencé à être écrit. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, il y a bien un Brésilien qui a fait une biographie sur Allan Kardec, il peut y avoir un Français qui fasse une biographie sur Chico. Il m'a fallu un an pour apprendre le portugais. Ensuite, il m'a fallu pas loin de 2 ans pour, en fait, lire. Il y avait à peu près entre 80 et 100 ouvrages qui parlaient de Chico. Et ajouté à cela, il y a 400 livres qu'il a écrits. Bon, j'ai survolé, on va dire, une cinquantaine de livres, les plus importants. Donc il m'a fallu bien 2 ans pour faire ça, et une dernière année enfin pour synthétiser tout ce travail.
Michael, donc est-ce que tu pourrais parler un peu de la vie alors de Chico et Xavier, une brève histoire de sa vie?
Donc Chico Xavier, il est né dans un petit village du Brésil, dans les terres qui s'appelle Pedro Leopoldo, le 2 avril 1910. Il était issu d'une famille modeste et métissée. Et c'est déjà à l'âge de 4 ans, en fait, sa médiumnité va se révéler. Il va commencer à discuter avec des personnes dites décédées. Il va communiquer avec sa mère, notamment, qui va décéder quand il aura 5 ans. Et il va pas bien comprendre à l'époque tout ce qui lui arrive, et c'est seulement à l'âge de 17 ans qu'il va découvrir le livre des esprits et l'évangile selon le spiritisme. Et il va aussi découvrir, ils vont créer un centre spirit, le centre spirit Louise Gonzague, où il va commencer à écrire de façon médiumnique. Et tous ces messages qu'il va commencer à avoir à partir de 1931, quand il aura 21 ans, les noms vont commencer à se. Les personnes vont commencer, des esprits vont commencer à signer ces messages, notamment des poèmes, qui vont créer un livre, un recueil qui s'appelle Le Parnasse d'Outre-Tombe, qui va vraiment créer un scandale à l'époque au Brésil, puisque la qualité des poèmes, ça sera difficile à l'époque d'expliquer pourquoi un jeune homme de 21 ans qui a fait que le cours primaire, qui est né dans une petite ville sans bibliothèque, sans connaissances, il a pu faire des œuvres que la plupart des gens ne pourront jamais accomplir, de différents poèmes, différents styles. C'est comme ça qu'il va commencer à être connu, et tout au long de sa vie, il va écrire 400, au total plus de 400 livres, dont tous les droits d'auteur sont reversés à des œuvres de charité ou à la diffusion du spiritisme. Il va aussi, à partir de 1967, systématiser en fait des réunions où il va recevoir des messages personnels pour les gens. On estime qu'il va recevoir à peu près 20 000 messages comme ça de personnes décédées qui s'adressent à leurs proches avec énormément de détails sur les noms des parents, des grands-parents, les dates de naissance, les dates de décès, les circonstances, des choses ignorées des familles. Et donc chaque semaine, Chico va recevoir à peu près une dizaine de ces messages qui vont faire qu'il va être vraiment très connu dans le Brésil et qui vont asseoir sa popularité à tel point que, malgré sa volonté, il sera proposé au prix Nobel de la paix en 1981. Bon, il n'aura pas le prix Nobel puisqu'il reviendra au commissariat des réfugiés de l'ONU. Peut-être pour répondre à la question pourquoi qu'est-ce qui est intéressant, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans ce personnage, c'est que, par exemple, ici en Europe, on entend très souvent parler de Gandhi, il est respecté. Et la personne de Chico Xavier n'est pas du tout connue. Et pourtant, si on compare les deux vies, sans vouloir dévaloriser Gandhi, il n'y a pas de commune mesure entre ce qu'a fait Chico et ce qu'a fait Gandhi. On se demande pourquoi un personnage comme lui, finalement, il n'est pas plus connu aujourd'hui en Europe. Et même au niveau du Brésil, on se demande s'ils ont bien conscience de cet apôtre, enfin, cette espèce de saint, on dirait, qui a vécu chez eux pendant 90 ans. je suis persuadé que d'ici quelques siècles, tout le monde saura qui était Chico Xavier. Et les gens le vénéreront, le respecteront comme aujourd'hui on respecte Gandhi, si ce n'est davantage. Et c'est vraiment un trésor culturel, vraiment pour l'humanité, qu'on n'a pas encore idée ni en Europe, et je pense ni même au Brésil.
Ok. Donc, Michael, maintenant, je voudrais savoir de toi, qu'est-ce que son travail de recherche sur la vie de Chico Xavier. Donc, tu as bien étudié sa vie, ses œuvres, ses œuvres charitables, et donc son exemple d'amour. Et donc, maintenant, je demande à toi, donc l'auteur du livre Chico Xavier, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de tous les jours?
En fait, ce qui est très fort dans la vie de Chico Xavier, c'est l'exemple qu'il donne au quotidien. Et devant toutes les situations auxquelles nous, on est confrontés, les difficultés, on voit qu'il a été confronté aux mêmes choses souvent. Et quand on voit la façon dont il a réagi, l'exemple qu'il a donné, les solutions qu'il a apportées, on est vraiment stupéfait. Parce que c'est souvent des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et qui sont faciles à appliquer dans nos vies. Il a vraiment une action forte en fait, sur ma perception, la conception que j'ai de voir le monde, même si intérieurement, il y a peu de choses qui ont changé encore en moi, parce qu'il faut du temps. Mais il y a vraiment une ouverture d'esprit qui a été grande. Je me souviens quand j'ai lu l'Évangile selon le spiritisme pour la première fois, étrangement, à la fin de la lecture, j'étais triste. Parce que je me suis dit, ce livre me paraissait tellement incroyable, je me suis dit, mais c'est fou, jamais je relirai un livre comme ça de ma vie. Il n'y en existe pas deux. J'avais cette intuition intérieure en me disant, j'aurais peut-être dû le lire moins vite finalement, ou je me disais, c'est quelque chose que je ne retrouverai plus jamais en lisant un livre. Et finalement, en ayant étudié la vie de Chico, je me suis retrouvé un peu dans cette même, on va dire, cette même zone de vibration. Ce livre a une vibration spéciale, et la vie de Chico aussi, quand on l'étudie, on se retrouve un peu dans le même état d'esprit. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été important, parce qu'il a vraiment refait vivre ça en moi.
Donc maintenant, Michael, j'aimerais bien si tu puisses laisser un message aux auditeurs de Radio Kardec.
Je leur dirais d'acheter le livre. Mais je dirais ça parce que j'aurais juste insisté sur une chose, c'est que les droits d'auteur du livre ont été cédés au mouvement Spirit, en fait. Et donc, toutes les personnes qui vont acheter le livre, elles vont non seulement, à travers la vie de Chico, pouvoir trouver toutes ces solutions dont on a parlé, et qui ça va beaucoup les aider, ça peut beaucoup les aider spirituellement, et en plus elles vont contribuer à la diffusion de ces idées, puisque les droits d'auteur sont revenus au SEI, qui va lui-même avec eux traduire ces livres et les éditer dans différentes langues, différents pays, et donc ils pourront eux aussi contribuer à diffuser l'œuvre de Chico Xavier en lisant ce livre et en l'offrant à leurs amis.
Nous voici arrivés à la partie consacrée au communiqué de nos divers partenaires. Hélas, aucun communiqué ne nous est parvenu, à temps au moins, ou tout au moins dans la limite impartie pour la réalisation de cette émission. En effet, les mois de juillet et août sont en général synonymes de vacances et de fermeture des centres spirit francophones. Radio Kardec ne peut échapper à cette tradition estivale, repos bien mérité que nous mettrons à profit pour préparer la rentrée de septembre. En attendant de nous retrouver pour de nouvelles émissions, que chacun profite de la pause estivale qui s'annonce pour se ressourcer et prendre de nouvelles résolutions au profit de chacun et de tous. Bonnes vacances et à bientôt. Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités en Belgique, Grand-Duché du Luxembourg et en France. En France, nos amis de l'Association du Chemin vous invitent d'ores et déjà à prendre note qu'ils organiseront toute une série de conférences, dont la première est prévue pour le samedi 11 septembre 2010 à 14h30. Le thème sera « La force de l'amour face à la mort ». Le conférencier sera Michel Pirat. La seconde, prévue pour le dimanche 10 octobre 2010 à 14h30, aura comme thème central l'épreuve scientifique d'une vie après la vie, avec la présence exceptionnelle du docteur Jean-Jacques Charbonnier. La troisième conférence s'effectuera le samedi 27 novembre à 14h30 sur le thème « Chico Xavier, l'homme et le médium. Celle-ci vous sera présentée par notre frère Michael Ponsardin, conférencier biographe. La quatrième et dernière conférence est prévue, quant à elle, autour du thème « La force de la prière ». Elle aura lieu le samedi 18 décembre 2010 à 14h30. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact via courriel à l'adresse suivante asso.du.chemin@free.fr ou par voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10. Vous pourrez également obtenir d'autres informations via le site internet de l'association à l'adresse suivante www.le-chemin.org. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.